France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. L'engagement selon Malraux. Chapitre 6. Aux côtés d'un seul homme. On aime bien mettre des étiquettes sur la tête des gens. C'est pratique, et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Mais dans la réalité des consciences et des âmes, les étiquettes ont tendance à valser. Les gens changent, ils évoluent, à certains moments ils mentent, et à d'autres, disons qu'ils enjolivent. Parfois, les étiquettes sont trompeuses, parce qu'elles ne correspondent à rien d'autre qu'à des théories abstraites, et non à des réalités concrètes. On peut professer la morale en public et faire le contraire en privé, ou inversement, quoique cela soit plus rare. Si bien que trouver la cohérence chez les hommes et les femmes, à l'échelle de toute leur vie, n'est pas toujours une mince affaire, et Malraux ne fait pas exception à ce sujet. Car l'auteur de La Condition humaine est retors aux étiquettes. Il était antifasciste, mais également maoïste. Or, Mao Tse-tung a été l'un des plus grands criminels de l'histoire, au même titre que Hitler, Staline, et certains des multiples dictateurs qui agissent encore aujourd'hui sur la planète. Son positionnement paraît donc à ce titre assez énigmatique. Malraux a aussi été communiste jusqu'à la fin des années 30, puis gaulliste après 1945, deux positionnements qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble a priori. Et pourtant, si l'on met de côté, dans ce cas précis, les étiquettes de droite et de gauche, il se peut qu'on le comprenne davantage. La preuve, avec cette archive du 31 janvier 1967. Il s'agit d'un discours au Palais des Sports de Paris, dans le cadre de la campagne législative qui allait se tenir en mars et dans laquelle il faisait campagne pour le général de Gaulle.
Lorsque dans une centaine d'années, les historiens s'occuperont de nous, ils diront sans aucun doute quelle étrange époque où ce qu'on appelait la droite n'était pas à droite, où la gauche n'était pas à gauche. Et où le centre n'était pas au milieu. Le centre n'est pas au milieu parce qu'il se conçoit comme une forme d'appoint. Nous ne sommes pas la droite parce que nous avons pris les mesures sociales les plus importantes que la France ait connues depuis le Front populaire. Et la gauche n'est pas à gauche parce que la gauche ne peut se définir par des gouvernements qui n'ont su ni faire la guerre, ni faire la paix. Parce que la gauche est l'immense rêve de la gauche qui se rêve et ne s'accomplit pas. Et enfin, parce qu'un gouvernement de gauche ne peut se définir ni par Suez, ni par Saquette, ni par Dien Bien Phu.
Alexandre Duval-Stalla, vous êtes avocat, auteur chez Gallimard d'une biographie croisée d'André Malraux et de Charles de Gaulle. Qu'est-ce que vous retenez de cette archive ?
Bien là, on est un peu dans la politique politicienne à laquelle André Malraux consent de descendre. On est à un moment où un peu compliqué en termes politiques, où effectivement il y a un risque pour les législatives. Puis cette volonté de définir le gaullisme effectivement comme quelque chose qui est un peu au-dessus de toutes ces choses-là, rappelant les différentes conquêtes. Peut-être un peu trivial sur le fait que la gauche ne sait pas gagner des guerres, ne faire la guerre et ou gagner la paix, parce que je pense que si jamais on devait l'interroger réellement sur le gouvernement Blum, il aurait été, et le Front populaire, il aurait été beaucoup plus élogieux que ce jeu de politique
là, interne. C'est une campagne électorale.
Oui, là, c'est une campagne électorale, voilà.
Un peu caricaturé.
Mais c'est vrai qu'il a, là, on voit un Malraux qui descend un peu de son piédestal pour rentrer dans le jeu politique. Il a jamais voulu être élu directement, mais il a fait un certain nombre de campagnes, en 65 notamment. En 67, ce discours qui est assez connu. Donc, il descend dans l'arène. Voilà, c'est une autre facette du Malraux.
Donc, il serait ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche. Il est gaulliste, dit-il, au-dessus de cela. Mais vous, Alexandre Duval-Stalla, quand vous fermez les yeux et que vous vous interrogez profondément et que vous devez choisir entre l'étiquette de gauche ou l'étiquette de droite pour la mettre sur le front de Malraux, laquelle choisissez-vous ?
Je dirais qu'il est un homme de gauche avec parfois des idées de droite.
Vous non plus, vous ne pouvez pas choisir.
En réalité, il fait partie des gaullistes de gauche. Donc il épouse dans le gaullisme les grandes conquêtes des libertés publiques, les grandes conquêtes sociales, le CNR. En fait, voilà, il est. Et d'une certaine manière, il garde le général de Gaulle de ne pas être le général de Gaulle. Donc c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la fameuse phrase « À ma droite, j'aurai toujours André Malraux ». Qui me garde sur l'essentiel. Donc je pense que c'est ça.
Qu'il a une influence réelle politique sur De Gaulle.
Il a une influence dans l'imaginaire, en fait, de Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle ne peut pas, face à André Malraux, ne pas être De Gaulle. C'est-à-dire le chef de la France libre, c'est-à-dire finalement le continuateur d'une grande histoire française. Et dans cette histoire française, il y a toutes ces conquêtes sociales. Mais d'ailleurs, si on reprend toute l'histoire de France d'une manière beaucoup plus générale, que ce soit la monarchie française puis la République, il y a une certaine politique, j'allais dire, du centre, qui n'est pas un appoint, mais qui est toujours un compromis, finalement. Pendant les guerres de religion, si on prend notamment Michel de l'Hospital, il représente, à ce moment-là, un compromis entre les ligues très conservatrices, voilà, et de l'autre côté les protestants, et donc une sorte d'équilibre. Et le gaullisme est dans cette continuité d'un compromis qui fait une espèce de synthèse de l'histoire française. C'est le mot de Marc Bloch. Si on ne peut pas vibrer au Sacre de Reims et puis aux grandes conquêtes de la Révolution française, finalement, il manque quelque chose à l'esprit français. En réalité, en profondeur, André Malraux reste sur ses idées politiques assez fermes du début jusqu'à la fin, hein, qui sont effectivement la liberté, l'égalité, la fraternité. Il est vraiment dans un discours très républicain.
Donc la gauche chez Malraux, c'est un certain rapport au peuple français, à tout le peuple français, y compris les classes populaires. Et pourtant, on ne le sent pas toujours très proche des classes populaires. Par exemple, dans ses goûts, on ne le sent pas taper quand même dans le dos de tous les ouvriers qu'il croise. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose comme une dissonance ici?
Alors, le paradoxe d'André Malraux, c'est qu'il est un homme du peuple, un fils de commerçante, d'épicière, voilà, et qu'il a toujours voulu sortir de ce milieu-là. Et donc, dès qu'il est jeune, qu'il a 16-18 ans, il va dans les salons, il est un dandy, il s'habille, il veut faire partir du monde, en fait. Et effectivement, ensuite, dans toute sa carrière, il sera plutôt bien extrêmement privilégié. Mais je pense qu'il a toujours eu quand même un sens du contact avec les milieux populaires, tout ça, et qu'il n'y a pas eu de d'ailleurs dans la résistance, dans la guerre d'Espagne, enfin dans tous ces moments-là. Voilà. Après, bon, il y a le côté ministre, bien évidemment, qui change un peu les choses. Mais je pense qu'il n'a jamais été, en tout cas, à l'égard des personnes hautain ou snob. Voilà, c'est pas le genre d'André Malraux. Il est perché, ça, c'est sûr que bon. Il est quand même perché, mais il n'est pas, il a aucun, il voit pas de différence en fait entre les personnes.
Pourquoi le pays a-t-il suivi si longtemps le général de Gaulle? Parce qu'il pensait qu'il assumait la France. Mais nous avons eu un très grand nombre de voix qui étaient des voix de gens qui ne pensaient pas que le général de Gaulle assumait la France, qui pensaient qu'il faisait son mieux, mais qu'il y avait un certain nombre de possibilités extrêmement variables, extrêmement différentes, et qu'après tout, selon la phrase fameuse, il n'y a pas d'homme providentiel. Ce que le pays a profondément ressenti, c'est que les motivations du général de Gaulle n'étaient en rien les motivations des politiciens. Et je crois que toute sa force a été là. Or, toute ma relation politique avec lui était là aussi. En fait, je n'ai jamais eu une relation profonde avec le général de Gaulle qui ne repose sur l'admiration que j'avais pour lui, parce que je savais que ses motivations étaient sans commune mesure avec les motivations des politiciens que je rencontrais. Disons par exemple que les honneurs lui ont toujours été absolument indifférents, et que qu'il ait assumé la France ou non, il est absolument certain que sa motivation fondamentale était la France.
Dans cette archive, c'est ce que dit André Malraux, c'est qu'en fait, le général de Gaulle, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir eu cette hauteur et cette haute idée qu'il avait à la fois de l'histoire de France et de l'exercice du pouvoir qui devait être au service de tous. Et d'ailleurs, sa grande phrase, c'est qu'il est au service des personnes.
Alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, Alexandre Duval-Stalla, dans la relation entre De Gaulle et Malraux, c'est que Malraux ne va pas à Londres. Et ils se rencontrent finalement seulement en 1945, ce qui paraît quand même très contre-intuitif. Comment se fait-il que Malraux n'ait pas ce réflexe d'aller rejoindre De Gaulle ?
Alors, il n'a pas essayé d'aller à Londres parce que, à l'époque, il pensait que c'était un général un peu factieux et un peu d'extrême droite, ou en tout cas d'une droite conservatrice.
Donc il s'est trompé sur De Gaulle. Il fait une analyse.
Au début, il n'est pas du tout. Ouais, il est plutôt réticent à l'idée de Gaulle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a aussi ses enfants. Il y a Josette Clotis. Enfin, je veux dire, il est dans une vie de famille. Et puis, il sent pas le moment de l'engagement. Il le sentira en fin 43 avec notamment ses demi-frères. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment s'engager. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi cette rencontre est si tardive. Parce que justement, à la fin de la guerre, il y a une vraie question politique entre les communistes et les gaullistes. Puisque entre eux, il n'y a rien. Et donc, le risque qu'effectivement les communistes prennent le pouvoir en France. Et comme, bien évidemment, Malraux a plutôt une amitié, un compagnonnage avec le communisme, il est bien évidemment sur la liste plutôt des suspects. Mais il va faire en sorte que son mouvement de résistance refuse finalement la fusion avec les mouvements communistes, et ce qui va permettre effectivement cette rencontre organisée par les entourages et qui va être assez tardive, mais pour le coup il y aura le coup de foudre et à ce moment-là ils ne se quitteront plus par la suite.
Donc De Gaulle n'a pas eu de ressentiment vis-à-vis de Malraux pour ne pas l'avoir rejoint plus tôt, parce qu'on sait qu'il peut avoir eu divers.
D'ailleurs il est fait compagnon de la Libération, donc d'abord tous les compagnons de la Libération n'ont pas rejoint Londres. Et puis ensuite, il y a les circonstances qui font qu'effectivement, tout le monde n'est pas allé à Londres. Parce que bien évidemment, il y avait aussi une résistance intérieure. C'est le rôle de Jean Moulin, bien évidemment, d'unifier cette résistance. Donc il y a un vrai enjeu de résistance intérieure.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, telle que vous la représentez, cette première rencontre entre De Gaulle et Malraux?
Cette première rencontre, elle est assez fascinante. Elle se déroule rue Saint-Dominique au ministère de la Guerre. Le 18 juillet 1945, et De Gaulle, première phrase, c'est d'abord le passé. Donc, il demande quand même à André Malraux de solder son passé. Et André Malraux raconte, effectivement, qu'il s'est engagé très tôt contre le colonialisme, contre le fascisme, tout ça. Et puis, il dit, dans la guerre, j'ai épousé la France. Voilà. Et donc, cette phrase a d'une certaine manière scellé l'amitié entre l'un et l'autre. Et puis ensuite, bon, ils ont parlé d'autres sujets, à la fois plus politiques et plus historiques, et qui ont fait qu'ils étaient d'accord sur l'essentiel.
Messieurs, la France, vous le savez comme moi, est depuis longtemps malade de n'avoir pas de mission. Il y a des pays qui ne sont jamais plus grands que repliés sur eux-mêmes, l'Angleterre par exemple. Mais en définitive, pour le monde, la France la plus grande, ça n'a jamais été la France de Louis XIV. C'était la France des croisades ou celle de la Révolution. La France est la France lorsqu'elle assume une part de la noblesse du monde. Depuis que les Français ont laissé aux Américains le soin de signifier la puissance, et aux Russes naguère le soin de signifier la justice, il y a dans ce pays un malaise profond, et les Français ne se pardonnent pas ne pardonnent ni aux autres ni à eux-mêmes d'être devenus un peuple sans mission. Patiemment et prudemment, nous voulons proposer à la France une sorte de mission nouvelle, et de nouveau lui donner la possibilité de signifier quelque chose. Nous n'avons pas les moyens des géants. Nous ne pouvons pas entreprendre ce que peuvent entreprendre les États-Unis ou la Russie. Mais enfin, la France est tout de même encore le pays qui a le phare le plus puissant du monde, le plus grand hangar d'aviation, les plus modernes gares de triage,
la voûte de barrage la plus haute, le premier télescope électronique, le premier tour solaire.
Que vous inspire cette archive, Alexandre Duval-Stalard ?
Bah, c'est vraiment, ils sont d'accord, le général de Gaulle et lui, c'est-à-dire que ils considèrent que la France n'est pas faite pour elle-même, elle est faite pour le monde, pour les autres. Et donc il y a un grand attachement, effectivement, au rôle de la France dans le monde. C'est en fait Les Misérables de Victor Hugo, qui est lu dans le monde entier et qui fait effectivement cette spécificité qui a été longtemps reconnue à la France d'être
Donc cet universalisme qui est aussi reproché à la France par la suite.
Voilà, tout à fait. Mais il y a effectivement une dimension liée à la Révolution française d'être un phare. Quand il parle de phare, bah c'est ça. Oui, on a toujours cette idée que la France est un phare pour le monde. Alors bien évidemment, depuis, les choses ont un peu changé. Mais il y avait dans cette idée du général de Gaulle que la voix de la France comptait et qu'elle était au service de la liberté des femmes et des hommes et qu'elle avait une mission.
Ce qui rapproche ces deux hommes, c'est aussi un certain rapport à la littérature. Les mémoires de De Gaulle, c'est aussi une œuvre littéraire. Est-ce que c'est important dans leur relation ?
C'est extrêmement important parce que ils sont tous deux des êtres littéraires, des intellectuels en politique, avec des dimensions évidemment différentes. Mais la culture du général de Gaulle est impressionnante. Il y a un livre qui a été consacré par le professeur Larcan sur toutes les lectures du général de Gaulle qui est passionnant parce que là, on voit effectivement toute cette culture immense, à la fois très classique, mais aussi très curieuse, puisqu'il va notamment, avec le prix Nobel de littérature française, Le Clézio, lire ses premiers livres. Donc il est très ouvert. Et bien évidemment, entre les deux, leur discussion, là, qu'on voit un peu à travers les livres d'André Malraux, et sur les auteurs. Bien évidemment, ils ne parlent pas du prix de l'essence ou du lait, mais ils sont toujours sur les auteurs, c'est-à-dire les grandes civilisations, c'est-à-dire les grands moments historiques, et puis la littérature qui les a profondément influencés l'un et l'autre. C'est vraiment des intellectuels en politique, quoi.
Et puis ce qui les rapproche, c'est peut-être aussi une vision épique de leur propre vie. Leur vie doit être une épopée, sinon elle ne mérite pas d'être vécue.
C'est le mot de Napoléon, quel roman que ma vie. Et effectivement, ils ont, le général de Gaulle, d'ailleurs différemment d'André Malraux, ont un peu rêvé une vie romantique. Puisque très tôt, le général de Gaulle pense qu'il va sauver la France dans ses carnets, où il est le général de Gaulle d'ailleurs qui sauve la patrie, et que tout au long de sa vie, en fait, il va incarner cette idée du général de Gaulle. Puis son nom même, en soi, est un roman. Donc c'est plutôt le roman de la France, j'allais dire. Et puis chez André Malraux, c'est le roman du révolutionnaire, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, alors on a beaucoup glosé sur ces différents mensonges, mais il disait que ces mensonges donnaient des réalités. En fait, oui, il a imaginé sa vie. Et d'ailleurs, on sait très bien que, par exemple, ce qu'il raconte dans les Antimémoires sur sa rencontre avec Mao et les scènes qu'on abat, bien évidemment, n'est pas la retranscription de ce qui s'est passé, mais parce qu'effectivement, il a réinventé ces conversations à l'aune de tout son imaginaire, à la fois politique et puis intellectuel.
Alexandre Duval-Stalard, est-ce qu'on peut parler d'amitié entre Malraux et De Gaulle ?
Oui, je pense qu'on peut vraiment parler d'amitié, une amitié très intellectuelle. C'est quand même deux grands intellectuels, hein, de manière différente, mais deux grands intellectuels. Le général de Gaulle est bluffé par la culture d'André Malraux, comme beaucoup de gens qui l'ont rencontré. Et c'est vraiment une amitié qui se noue au cours de ce rendez-vous en juillet 1945, ce premier rendez-vous, qui va se poursuivre jusqu'à la fin, donc avec les chaînes qu'on abat qui retracent un peu, réinterprétées, hein, toute l'histoire de leur amitié. Et donc c'est une vraie amitié, et d'ailleurs une amitié aussi intime, hein, puisque quand il va perdre Josette Clotis, donc la femme avec qui il était pendant la guerre, son mariage avec Madeleine Malraux, les époux de Gaulle seront présents. Donc puis sur les enfants, bien évidemment, quand André Malraux perd ses enfants, il y a des gestes très très humains et très intimes entre le général de Gaulle.
On n'a pas l'impression qu'on peut être très intime avec le général de Gaulle. Ça n'a pas l'air d'être tellement possible.
Après, c'était une génération aussi, c'est quand même un peu avec nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, il y avait une certaine bien évidemment retenue, et c'était le cas bien évidemment avec le général de Gaulle, mais il y avait une forme d'intimité liée à leur époque et à leur éducation qui faisait que si, il y avait quand même une intimité, et puis encore une fois, il y avait un respect profond entre l'un et l'autre, quoi. Et d'ailleurs, s'il le reçoit après 69, donc après son départ de l'Élysée, c'est pas un hasard, il reçoit des amis.
Le 11 juillet 1969, quelques semaines après la démission de Charles de Gaulle de la présidence de la République, André Malraux rend visite à l'ancien président dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises. La conversation entre les deux hommes dure plusieurs heures, entrecoupée de silences, de souvenirs et d'un échange sur l'histoire, la France et le retrait du pouvoir. Le ton est grave, crépusculaire. L'un et l'autre ont le pressentiment qu'il s'agit peut-être de leur dernière conversation. Malraux, qui n'a jamais pris de notes pendant leur entretien, en ressort bouleversé. Quelques jours plus tard, il commence l'écriture des « Chaînes qu'on abat », une évocation libre de cette dernière rencontre. Ce n'est ni un hommage, ni un témoignage, mais une méditation politique et existentielle dans laquelle Malraux tente de fixer la voix du général et d'inscrire leur dialogue dans une forme d'éternité. Dans une émission diffusée le 29 avril 1971, André Malraux revenait sur ce livre avec des accents mystiques.
Ce qui s'est passé, pour moi, c'est pas son dialogue avec moi, c'est quelque chose d'autre, c'est son dialogue avec la neige, avec la nuit, ce que j'appellerais son dialogue shakespearien. Mais l'œuvre d'art, pour moi, n'est absolument pas là. Elle est complètement dans ce qu'il dit, lui qui aura pour nous signifié tant de choses, d'une nature assez irrationnelle, et ce qu'il dit en face de cette immense campagne dans laquelle il n'y a plus une seule maison, et en face de ce que j'ai appelé la neige de l'Austrasie. C'est là qu'était pour moi la nécessité de création du livre.
Alexandre Duval-Stalin.
Alors, même vous avez été pris par les mensonges d'André Malraux, parce qu'en fait, il va passer une petite heure avant le déjeuner avec le général de Gaulle, puis ensuite, il y aura le déjeuner, le café, puis partiront en début d'après-midi.
Donc, il a raconté autre chose que ce qui s'est vraiment passé.
Et il parle des étoiles, justement, en sortant, et en fait, bien évidemment, à cette heure-ci, il n'y a pas d'étoiles. Ce qui montre bien, en fait, le génie d'André Malraux, parce que ce qui est important, c'est pas tant, finalement, ce qu'ils se sont dit pendant cette petite heure, mais c'est tout ce qu'ils se sont dit de 45 jusqu'à 70, et qui est retranscrit, en fait, dans les chaînes qu'on abat. Et c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle, d'une certaine manière, chez l'un et chez l'autre. Le général de Gaulle, catholique, pratiquant, et André Malraux, agnostique, mais dont la dimension religieuse, spirituelle, titille l'un et l'autre. D'ailleurs, François Cheron a fait un magnifique livre sur Malraux face au Christ, qui explique cette relation particulière qu'il avait avec la transcendance. Voilà.
Mais en lisant ce livre, on se rend compte que il y a quelque chose en effet de crépusculaire et que il décrit Malraux la fin d'un monde qui est la fin de son monde à lui et au général.
Oui, on aura tenté de faire ce qu'on peut faire avec nos pauvres vies misérables face à la race des grands chênes, c'est-à-dire c'est toujours cette question de notre infiniment petit face à l'immensément grand qu'est la vie et qu'est le monde et qu'ils sont confrontés finalement à quoi ça sert tout ça. Et ça, c'est une question qui est une question métaphysique finalement. Pourquoi s'engager? Pourquoi finalement pas rester tranquillement chez soi? Pourquoi s'engager finalement pour les autres? On pourrait se contenter de se satisfaire soi-même, mais il y a une dimension effectivement métaphysique, c'est-à-dire finalement face à la mort, qui est vraiment l'obsession malrussienne. Quelle est notre action?
Mais il vous fait remarquer que c'est vous qui avez rendu le mot gaullisme usuel. Alors, après avoir lu ce livre, on est tenté de vous demander quel sera le sens de ce mot dans l'avenir.
Il n'en aura plus guère. Le gaullisme n'était pas du tout une philosophie, c'était une éthique. Et dans le livre, je lui dis, les gens qui se croyaient gaullistes n'étaient pas du tout des gens qui avaient telle ou telle théorie de l'État, car il y en avait bien sûr, mais c'était un petit nombre. En fait, ils approuvaient votre théorie de l'État, mais c'eût été une autre, naturellement pas n'importe quoi, une autre importante, eh bien, ils l'auraient acceptée aussi. Alors, ensuite, on peut dire, mais il avait une notion de l'État, à un moment où l'État était en déliquescence, il avait l'idée que l'État, ça ne pouvait être que le peuple plus le président, et ainsi de suite, que les partis étaient nocifs pour la vie nationale. Nous pouvons faire une sorte de résumé idéologique du gaullisme, qui d'ailleurs est à la fois important et secondaire, mais Richelieu, qui a été certainement une très très grande figure, n'a pas une philosophie politique, je veux dire, c'est pas du tout Marx, seulement voilà, quand il est arrivé, il n'y avait plus de France, et quand il est mort, elle était le premier pays du monde, enfin, le premier pays de la chrétienté.
Une réaction sur cette dernière archive?
Ben, il a raison, c'est vrai que aujourd'hui le gaullisme n'a plus beaucoup de sens, puisque même l'extrême droite et les héritiers de Vichy viennent sur la tombe du général de Gaulle et s'en glorifient, ce qui est vraiment un retournement de l'histoire. Et il a raison de dire que le gaullisme est une éthique. Et je pense que c'est une éthique qui est fondée sur une profonde culture française, à la fois dans sa diversité, dans ses nuances, et qu'elle est aussi une manière d'être. Voilà, et je pense que ce qu'admirait André Malraux chez le général de Gaulle, c'est sa manière d'être, cette espèce de d'être sur les hauteurs. Ouais.
Malraux n'a jamais été un homme de parti. Son engagement aux côtés de Gaulle ne relève pas de l'idéologie ni du calcul, mais d'un lien plus profond et presque intime. Il reconnaît en effet en De Gaulle une certaine idée de la France, une exigence de verticalité, un rapport au tragique que lui-même partage. Leur alliance tient donc moins à la politique qu'à une vision commune du destin. Et c'est peut-être cela, au fond, l'engagement selon Malraux, non pas l'adhésion à une cause, mais le choix d'une intensité.
Avez-vous l'impression, André Malraux, que vous avez été inventé pour une mission bien précise?
Sûrement
sur
pas.
Cette terre.
Sûrement pas. Il m'est arrivé de faire certaines choses dont je me suis aperçu après qu'elles étaient peut-être pas mal, et j'en suis certainement content, mais je ne me croyais prédestiné à rien.
L'engagement, selon Malraux, une série en 6 épisodes de Salle des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Cornaer, prise de son Ruben Carmazine, Marie-Claire Oumabadi, mixage Alexandre Dang, documentation INA Delphine André, documentation musicale Antoine Vuillouse.